La revue de presse, Claude Askolovitch. Bonjour Claude. Et on parle de l'Allemagne ce matin.
Et on parle d'une révolution qui se déroulait il y a 30 ans, quand des manifestations en Allemagne de l'Est eurent raison de la dictature communiste et firent tomber le mur de Berlin. C'était le 9 novembre 1989, et sur le site de Midi Libre, des Français qui alors vivaient à Berlin racontent cette espérance. Mais le monde diplomatique prend notre mémoire à revers et raconte la suite, l'histoire d'une annexion, titre le journal. L'annexion de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest, quand l'aspiration à la liberté se transforma en une brutalité économique dont se nourrit encore aujourd'hui l'extrême droite allemande qui prospère dans l'est du pays. C'est un très long article que hier, ce n'est pas un hasard, Jean-Luc Mélenchon a salué sur Twitter. Il déroule cet article implacablement une autre vision de l'histoire, disons celle d'une gauche antilibérale en deuil d'une utopie. Quand le communisme s'effondre un court instant, la RDA pense pouvoir devenir, par ses révolutionnaires, un pays libre et socialiste à la fois. Les entreprises d'État ont été regroupées dans un organisme géant, la Treuhand, qui doit redistribuer les richesses au peuple. Mais cette utopie est balayée dans une guerre idéologique éclair menée par les chrétiens démocrates qui gouvernent l'Allemagne de l'Ouest. En mars 1990, les premières et dernières élections libres de RDA se déroulent à l'ombre de la tentation du Deutschmark. La droite l'emporte et en quelques mois, l'Allemagne de l'Est disparaît, absorbée par l'Ouest, mais cette absorption détruit une société qui n'était pas prête. La population est-allemande, dit le Diplo, fut jetée dans les flots du capitalisme avec une pierre autour du cou. Les entreprises sont asphyxiées, il y a des centaines de milliers de licenciements et l'industrie est-allemande est surtout vendue, privatisée à des investisseurs de l'Ouest dans une atmosphère d'affairisme et de favoritisme qui empoisonne aujourd'hui les débats allemands. La réunification aura été le plus grand programme d'enrichissement des Allemands de l'Ouest jamais mis en œuvre, a dit un jour un dirigeant social-démocrate, et conclut le monde diplomatique, ce serait cela que commémorent les 9 novembre les classes dominantes occidentale. Conclusion partielle et sans doute choquante, car le 9 novembre 89 fut d'abord la fin d'un régime meurtrier de son peuple. Tiens, depuis plusieurs jours, l'équipe rafraîchit nos mémoires en racontant des histoires de sportifs est-allemands qui avaient, comme on disait alors, choisi la liberté. Et vous découvrirez aujourd'hui la beauté éphémère de Lutz Eigendorf, qui fut un espoir du football de RDA. Son élégance lui valait le surnom de Beckenbauer de l'Est. Il s'était enfui à l'Ouest en 1980 et 3 ans plus tard mourut dans un accident de voiture très probablement organisé par les services secrets est-allemands qu'il appelait le traître. Mais que faire si l'injustice est née après la liberté ? En même temps, l'injustice se décline sous tant de formes. Dans Le Point, qui n'est certainement pas sur la ligne du monde diplomatique, on me raconte un nouveau malheur allemand contemporain celui-là, celui des épargnants de la Caisse de Munich, une institution qui applique depuis un mois un taux négatif sur les nouveaux dépôts de plus de 100 000 euros. Vous n'épargnez plus, vous êtes taxé. Et en Allemagne, la colère est montée contre Mario Draghi, patron de la Banque Centrale Européenne, qui a inventé ces taux négatifs pour soutenir l'économie, mais que le grand journal Bild Zeitung a caricaturé en Draghi-là, un vampire qui suce nos épargnes. Madame Lagarde, la française, qui succède aujourd'hui à Monsieur Draghi, et dont le monde raconte le parcours, Madame Lagarde, un jour, sera-t-elle surnommée Vampirella, se demande la tribune.
Et Claude, dans Mediapart, on parle de la Française des Jeux.
Dont on pourra acheter bientôt des actions dans 8 jours, et Mediapart s'insurge. On donne au privé, l'héritier de la Loterie Nationale, créé en 1933 pour que ses gains soulagent le malheur des anciens combattants. On offre à la spéculation la vie des plus fragiles, des plus susceptibles de devenir dépendants du jeu. Et on retrouve dans cette privatisation française, vue par Mediapart, un écho de cette privatisation allemande, racontée par le monde diplomatique, une transgression contre les nations, les peuples et leur bien-être. Ainsi pensent les gauches. Pendant ce temps-là, dans l'opinion, Charles-Henri Dauvigny, président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, trouve, à l'opposé, que notre gouvernement est trop timide sur la Française des Jeux. Il faudrait qu'on en fasse un grand moment pédagogique national sur les bienfaits de l'épargne et pas un simple moment de casino. Le mouvement des Gilets jaunes a un an cet automne et il dérange encore. À Arny, me dit la Voix du Nord, une femme qui avait prêté son terrain aux Gilets jaunes, si souvent expulsés de leur campement, s'est retrouvée devant les gendarmes suite à une plainte de sa mairie. Le monde diplomatique encore raconte un an de Gilets jaunes en Ardèche qui, de lutte en lutte, ont réinventé, sans en avoir la culture, tous les rites des vieux mouvements populaires. L'Obs s'attendrit aussi bien dans un beau texte d'une journaliste, Emmanuelle Anison, qui à force de suivre le mouvement des Gilets jaunes, a découvert une part de peuple qu'elle ne connaissait pas et s'est retrouvée à défendre cette part de peuple sur les plateaux télé quand on accusait les Gilets jaunes de toutes les violences, mais elle les connaissait. Il y a, dans nos journaux, des tendresses pour les classes populaires et ce qu'on leur fait. Il y a dans Society un très beau reportage sur une chaîne de pop anglaise, J.D. Weatherspoon. Des pubs qui ne sont pas chers et pas si bons, dont les moquettes ont des motifs étranges, dont le style ne fait qu'imiter la chaleur des vrais pubs, des vrais pubs, mais qui sont comme un refuge et qui furent un lieu où se concocta le Brexit entre les clients fatigués de ne pas exister et le propriétaire milliardaire qui abreuvait leur colère.
Et un peu d'espoir pour terminer, Claude.
Dans 21, superbe revue comme à son habitude, rencontrer Finbar O'Barry, un Irlandais timide, facteur de son métier, violent d'avoir été violenté dans son enfance par un ami de sa famille. Il pensait que pédophilie et homosexualité étaient des synonymes. Il fit partie d'un groupe de citoyens qui participa à la rédaction d'une nouvelle constitution pour l'Irlande. Et là, devint l'ami de Chris, venu trop maquillé pour défendre la cause du mariage gay. Et leur vie changea comme tout un pays. L'espérance dort toujours, comme de Calais, dans Nord Littéral, la Voix du Nord et Marianne, le dragon mécanique géant que des milliers de personnes sont déjà venues admirer et qui va se dresser cette fin de semaine pour les rêves que nous méritons.
Merci Claude Askolovitch, c'était la revue de presse.